La Traversée. La Traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Assina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Avec aujourd'hui Denis Martinez. Denis Martinez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes actuellement enseignant à l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence.
On peut dire ça.
Et vous avez enseigné, très longtemps durant, à l'École des Beaux-Arts d'Alger.
Exactement.
La première fois qu'on s'est rencontrés, je vous ai dit, mais vous êtes pieds-noirs. Oui. Et vous m'avez dit, absolument pas, je suis algérien. Alors je voudrais que vous expliquiez ça un petit peu aux auditeurs.
D'accord. Bon, d'abord, algérien, mais je préfère, et je le dirai à chaque fois, dire citoyen algérien, parce que je trouve que c'est important, maintenant, à notre époque, de parler de citoyenneté, parce qu'on a tendance, surtout en ce qui concerne les pays du Maghreb et le monde arabe en général, à confondre la race, l'ethnie et la nationalité. Hein, alors qu'il faudrait que ce soit comme dans tous les pays modernes du monde, qu'on puisse être algérien de nationalité sans être nécessairement d'origine arabe ou berbère ou quoi que ce soit. Ça, c'est un principe numéro un. Bon, l'histoire a voulu que mes ancêtres soient, je parle de mes ancêtres, de mon père, mon grand-père, etc., que j'ai eu des ancêtres qui sont venus d'Andalousie, même avant la conquête française, mais après aussi après. Mais je veux dire que ces gens-là, quand ils sont déplacés, ils se sont implantés en Algérie. Il y a eu des grands-parents nés là-bas, pères nés là-bas. Et bon, pendant longtemps, pendant une certaine époque, ces gens n'étaient pas français. Ils étaient d'origine espagnole. Et c'est qu'après, quand mon grand-père a été obligé de devenir français s'il fallait vivre en Algérie, qu'il a fait la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, il avait Verdun, il a libéré la France, etc., etc., etc. Et mon père l'a libéré la deuxième fois, avec, etc. Et donc, tous ces gens-là qui sont devenus français avec le temps, du point de vue, ils étaient citoyens, mais n'empêche que c'était des citoyens de l'autre bord. Hein, mais ils avaient une mentalité, qu'on appelle une mentalité d'Algérien d'origine européenne. À l'époque, pendant longtemps, on disait Algérien d'origine européenne. Et ce n'est que pendant la guerre de libération et surtout avec les dernières années de la guerre de libération, quand les gens dits d'origine européenne ont commencé à vouloir affirmer ceux qui se battaient pour l'Algérie française, à dire « nous sommes français ». Le mot « algérien d'origine européenne » est disparu. Donc c'était français. Et le mot pied noir était apporté par ce qu'on appelle les troupes, disaient les métropolitains, ils disaient là-bas, ceux qui venaient de France. Donc, on désignait les gens d'origine européenne, donc les Français, on désignait comme pied noir, comme des gens un petit peu à l'image de tribus indiennes qu'on appelait bizarre. Oui. Donc, ce sont les gens qui ont opté pour l'Algérie française qui ont accepté l'appellation pied noir. Moi, j'étais pas de ce bord-là.
Vous avez vécu à Oran. Vous êtes d'origine oranaise, en fait.
Je suis de l'ouest, de cette région qui est dans la population d'origine dite européenne et essentiellement d'origine espagnole.
Ouais. Donc, avec toute une mentalité, des mœurs, une façon de vivre.
Oui, alors la différence des gens d'origine espagnole et ceux je parle du reste de l'Algérie, qu'ils soient d'origine alsacienne ou bretonne ou autre, c'est que les mœurs espagnoles d'Andalousie, parce que nous, ils venaient d'Andalousie, mes ancêtres, étaient proches, très 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 proches, du point de vue mœurs. Hein, même s'ils étaient de confession chrétienne, mais ils avaient quand même dans leur héritage de mœurs, ils étaient très très... très maghrébin de mœurs, hein, par le problème vis-à-vis de la femme et tout le reste. Et tout le reste, bon, je vais pas en parler maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire le rapport à la religion, le rapport à la superstition, le rapport à tous ces trucs-là. Ce qui fait que, moi, je dirais que mon grand-père, à part le fait qu'il soit chrétien, comme il disait, de point de vue conduite, n'avait pas de grande différence avec les Moros.
D'accord.
Voilà, parce qu'on était. Moi, mon grand-père était un rural et je suis né dans les vignes, si on veut quoi. Hein, ce que disait mon grand-père quand il parlait avec les gens de la ferme, il disait "Tu es moro, yo soy cristiano." Hein, tu es mort, je suis chrétien. Mais ça, c'est les anciennes histoires espagnoles. ça c'est... Hein.
C'est lucide, en fait.
Oui, mais n'empêche que d'origine andalouse, lui-même était peut-être d'origine de morts christianisés.
Lorsqu'arrivent les événements 54, je ne dirais pas pour vous, vous étiez relativement jeune, mais pour votre famille, c'est vécu comment ? C'est une surprise, vous avez une tradition politique ?
Mon père et ma mère portaient tous les deux le même nom, d'accord ? Je suis Martinez et Martinez, les deux, ok ? De villages voisins, d'accord ? Il y avait ce qu'on appelait à l'époque Saint-Leu, Betiwa actuellement, et Port-au-Paul, Marcel Hadjer actuellement, bon. D'origine, mon grand-père paternel était facteur, mon grand-père maternel était propriétaire terrien, mais il racontait comment que son père et ses parents avaient obtenu les terres, c'est-à-dire c'était des terres données par la France aux vanupiés venus d'Espagne pour pouvoir exploiter les lieux. Ça, c'était comme ça. Hein. Et lui, il a une conscience terrible par rapport à ça, mon grand-père.
C'est-à-dire
qu'il savait très bien que c'est des terres que ses ancêtres avaient eues illégalement. Ah ouais. Non, mais il le savait. Il savait mais n'empêche, il a toujours été très juste. Mon grand-père, même tout en profitant des terres, machin, c'est quelqu'un qui a été très humain. Très humain, très. Pour moi, c'était un exemple, mon grand-père. Mais il ne parlait jamais de politique. Il a failli, à un moment donné, dire bon, moi, j'aurais pu être PPA. Parti populaire algérien.
Oui, de Michel.
Mais il ne s'est jamais engagé. Mais il a toujours eu une conduite très, très juste. Et il était très. Bon, j'aime pas souvent dire ouais, il y a des gens qui disent comme ça, pieds noirs, qui disent ouais, on était bien là-bas, etc. Non, le problème, mon grand-père, c'est que il a toujours essayé de fonctionner. Bon, il était de façon tellement juste, à un moment donné, il a perdu ses terres. Hein. Il les a perdues.
À quel moment ?
Oh, dans les années. J'avais 4-5 ans.
Ah oui, indépendamment des événements.
Non, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que c'est des problèmes familiaux, machin, etc.
Ouais. Bon. Mais il y a une tradition politique dans la famille ou pas du
non.
tout ? Les événements vous surprennent ?
Ils sont venus progressivement sans surprendre.
C'est-à-dire sans surprendre ?
Bon, moi, j'étais gosse quand même. Hein. Bon. Mais je sais que quand il y avait des attaques des fermes, à un moment donné, parce que la LN attaquait des fermes des colons, mon grand-père ne savait pas quoi faire. Et il est allé voir un jour un marabout. Parce que nous, on avait dans la famille, on était d'origine dite espagnole, même si c'était de confession chrétienne, on n'allait pas à l'église. Et quand il a commencé à avoir les attaques des fermes dans la région, par la LN, le marabout lui a dit écoute, Manuel, quitte la ferme. Va ailleurs. Il y a des choses qui vont se passer. Ça s'est passé comme ça.
Mais en même temps, la revendication Algérie-Française vous est venue dans la figure un petit
Jamais.
Peu. Non, mais c'est-à-dire que ça vous a surpris. C'était pas votre slogan.
Jamais. Non, dans ma famille, c'était mon père. Après, plus tard, parce que mon père qui était fils de facteur est devenu facteur, t'es nommé à Blida, etc. On n'a jamais parlé d'Algérie française.
Ah, je rappelle, hein, vous venez de le dire, vos parents font la guerre de 14, la guerre de 40.
Mais ça c'était pour être français, pour pouvoir avoir. Bon, écoute, à l'époque, tu sais, pendant la. Il y avait une situation, hein, l'Algérie. Faut pas oublier une chose, c'est que les gens d'origine espagnole ou italienne, machin, surtout les Espagnols en particulier, je parle des régions qui parlent de ceux qui viennent de ma famille, qui ont créé le village de Port-au-Paul c'est-à-dire Master Hajjaj, ils venaient eux-mêmes d'Andalousie, d'une région qu'on a appelée Almeria, Pulpi. Donc, tous les gens, la plupart des gens de Pulpi, Almeria, de machin, qui étaient dans ces mines-là, ont débarqué en Algérie. Et donc, Et c'est là que, bon, ils se sont installés, par exemple, au Poule, Saint-Leu, etc. Ils ont fondé ces villages-là. Ils ont commencé à gratter le sol, ou bien être pêcheurs, ou bien être, etc., etc. Mais c'était des qu'on appelait des prolétariats, des va-nu-pieds les plus miséreux, qui tout d'un coup trouvent, on leur offre un territoire. Et bon. Pendant un certain temps, on ne parlait pas de nationalité. C'était simplement faire, tu vois, vivre, survivre dans une région appartenant à d'autres gens. Hein? Et donc, on leur donne des territoires.
Vous aviez vraiment le sentiment que cette terre ne vous appartenait pas au départ?
Mon grand-père avait ça.
Ce que vous venez de dire. Donc, ouais. Ça remonte très loin, ce sentiment.
Mon grand-père avait ça. Mon grand-père, il disait, oui, mais attends, non, c'était nos terres, mais nous, on les a donnés comme ça. On les a pris à d'autres. Mon grand-père, il disait ça. Alors que d'autres pourraient dire, nous, on est venus civiliser un endroit, machin, etc.
Oui, j'ai compris.
Voilà. Alors, je veux dire que là, et quand... quand ils se sont installés, bon, après le temps est avancé, c'est-à-dire que la France s'est installée bien comme il faut. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Oranie, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des périodes espagnoles avant la France.
Bien sûr.
L'Ouest, je sais que dans une partie de ma famille, il y avait des gens qui sont originaires un peu de cette époque-là.
Hein? C'est-à-dire mais ça remonte très loin, je crois, du temps de Charles Quint.
L'empire de Charles Quint.
Bien sûr.
Je veux dire que, en fait, quand on parle de les Espagnols et les Turcs se sont battus pour occuper l'Algérie, pour tenir l'Algérie, d'accord? Bon, je prends ces détails en passant.
Mais c'est important parce que c'est la bataille de l'époque.
Non, les gens d'origine ottomane en Algérie, on leur pose pas la question pourquoi vous êtes algérien. Et les gens d'origine espagnole leur posent la question. Alors qu'ils sont arrivés presque au même moment. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que les uns sont musulmans, les autres non.
Ah. D'accord.
Alors, il y a à un moment donné la confusion entre la religion et la nationalité.
Bien sûr. C'est d'où la question tout à l'heure. Vous dites, ouais, bon, je suis citoyen, voilà, bien
d'accord.
Sûr.
Alors, bon, je reviens donc à l'histoire de ma famille, là. C'est que quand après, à un moment donné, bon, quand il y a eu beaucoup d'Espagnols qui se sont installés dans l'Ouest, à un moment donné, l'Espagne a failli réclamer cette région.
Il y a eu des craintes, j'ai lu ça, de la part de l'administration française, que du côté de l'Oranie, il y ait sécession.
Oui, ça a failli.
Très officiellement, les généraux m'ont dit ça.
Ça a failli. Alors du coup, ils ont commencé à rattraper le terrain en envoyant un peu des gens d'une population pas espagnole dans la région, etc. Bon, je veux dire que les Espagnols qui venaient s'implanter là-bas, ils venaient pour se sauver de la misère, quel que soit le terrain qu'ils occupent. Mais ils ne pensaient pas ni à la France ni quoi que ce soit. Et ce n'est que beaucoup plus tard, après, comme mon grand-père qui était fils de gens installés là-bas, quand les villages étaient nés, les villages avaient leur administration et autres, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, donc la France faisait appel à tous les Français de France et d'outre-mer pour défendre la France. Et mon grand-père, qui n'était pas français à l'époque, parce que personne n'avait la nationalité française, a fait la guerre, la Première Guerre mondiale, pour pouvoir obtenir la nationalité française, pour pouvoir ensuite profiter des droits de Français.
Comme
en Algérie.
Comme beaucoup d'immigrants.
D'accord.
En mais c'est ça, oui, fait non, comme ça.
Mais oui, mais donc, il a fait Verdun.
En 62. Vous décidez, vous, Denis Martinez, de rester en Algérie.
C'est pas tout à fait une décision. Une décision, ça veut dire que je réfléchis à ce moment-là. Pour moi, non. Il n'y a pas eu de décision. On est resté.
Mais beaucoup de Français partaient.
Ça, c'est une décision. Non, c'est pas une décision. Une décision, ça veut dire que non... Pour nous, il n'était pas question de partir. Donc, il n'y a pas de décision. On ne voyait pas comment, pourquoi.
On va parler de votre travail.
Ouais.
Parce qu'il est peut-être lié, vous me direz comment et pourquoi, et si c'est exact, à vos origines, avec ce que vous avez vécu. Vous travaillez en tant que plasticien, au fond sur les traces, sur des questions qui relèvent aussi de la mémoire. Moi, ce serait presque une espèce d'archéologie que vous faites. Vous avez, je crois, parcouru toute l'Algérie pour ça, à la recherche de certaines sources.
C'est difficile, hein. C'est très difficile parce que bon, le mot trace, c'est quelque chose que je peux dire maintenant, mais que je ne disais pas il y a quelques années. Mais n'empêche que la quête elle-même, elle a toujours existé. C'est-à-dire que la quête vers moi-même, j'ai dû confirmer mon identité. D'abord. Et c'était pas facile. Il y a eu toute une période que j'ai fait une série de peintures qui s'appelle Douloureuse Identification. Ça, c'est un truc. Pardon. Là, j'ai eu du mal à m'éclaircir, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que je ne voulais pas être fermé derrière une origine simple comme ça. J'avais envie d'appartenir à tout un territoire. Et j'avais envie de dire, je suis tout ça. Mais pour dire aussi que je viens d'ailleurs. Mais ce ailleurs qui vient de là, c'est-à-dire l'Andalousie, c'est pas n'importe quoi. C'est aussi un endroit, d'un lieu de rencontre, hein, que mes traces andalouses étaient elles-mêmes, elle avait porté elles-mêmes les traces maghrébines. Ma situation de personnage étant né dans un contexte, hein, dans un territoire, etc., avait toutes ces choses en lui-même. Et je suis dans les zones rurales et dans la ruralité, avec tous ces signes profonds. Même si j'étais d'origine espagnole, mais moi j'étais entièrement baigné dans ce qu'on appelle les signes populaires les plus anciens qui étaient là, même s'ils apportaient des noms arabes, c'est la berbérité, tout ce qu'on veut, etc. Mais sans en avoir conscience réelle, mais j'y étais. J'ai été modelé par ces différentes choses. Parce que, je répète, moi, il faut que chacun doit pouvoir l'avouer, c'est qu'on existe de frottements, de mélanges, etc. Hein? Je suis peut-être petit-fils ou arrière-petit-fils d'origine andalouse, mais mes copains, mes amis médias, mes machins immédiats, etc., étaient des gens de la ruralité oranaise, etc. Hein? C'était Ben Issa, c'était Mohamed, c'était machin et autres. C'était Ali, c'était dans les vignes, dans les machins, c'était l'argile, les souches de vignes, les roseaux, hein, les douars, le marabout, l'épicerie du coin, le Fatmi, machin, etc., les tracteurs à chenilles, les mulets, les rabattres, la paille, les moissonneurs qui venaient du Maroc, les tailleurs de vignes qui venaient d'Andalousie, ceux qui venaient battre le blé, qui venaient du désert, toutes ces choses-là, je les vivais dans cette ferme. Ceux qui venaient, les Sahraouis qui venaient battre le blé avec leurs champs, et qui avaient leur campement derrière la ferme, et que le soir, ils fumaient leur pipe en argile avec le sipsi, c'est-à-dire le kif, etc. Hein, les moissonneurs marocains qui chantaient leurs chants, à l'époque c'était les moissonneurs à la main, ils mettaient des roseaux pour se protéger les doigts et qu'ils avaient leurs chants antiques, tu sais, à la caractère religieux pour moissonner. Allah, Nbi, Allah, Nbi. Avec le meneur, les ceux qui venaient greffer les vignes, que c'était des Espagnols de Melilla qui venaient là pour tailler les vignes. Alors là, c'était les buveurs de vin, et sinon, bon, manger du cochon, etc. Et c'était des pauvres mecs, tu vois, ça n'avait rien à voir, tu vois, et qui étaient vraiment, qui avaient des doigts comme des souches, tu vois. Ça, c'est des trucs. Et alors, tout ça, c'était... Et puis, la superstition régnante, locale, etc. Mais tout ce que racontait mon grand-père, les vieux ouvriers du coin, etc. Tout ça, c'était... Ça. C'est rentré définitivement dans mon crâne. Et ça ne bouge plus. Alors, du coup, même si à un moment donné, je me suis écarté de ces choses-là, mais oui. ça revient. Pour moi, c'est mon béton, c'est tout ce qu'on tu veux, c'est mes racines, c'est ma sève. Et quand, tu vois, je n'ai pas arrêté ensuite après, quand, avec la conscience qui se développe, d'aller vers les choses. Tu vois, par exemple, je n'aime pas visiter trop les galeries.
Mais je comprends, oui.
Je préfère les voir, les choses qu'on n'appelle pas trop trucs artistiques, mais qui ont des choses fortes, tu vois. Alors, quand je voyage sur le territoire, en Algérie, j'étais tout le temps en déplacement, surtout vers le sud et autres. C'était à la rencontre des choses, tu vois, qui me nourrissaient beaucoup plus, de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que ce que vous pouvez trouver dans les musées, les galeries, etc. Et ça, c'est comme ça. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a, dans le travail lui-même, des moments où, par exemple, la situation extérieure est tellement forte, par exemple, quand je dis forte, quand il y a un moment de violence. Par exemple, moi, quand j'étais adolescent, 20 ans, même plus après, j'ai vécu quand même, mon adolescence, elle s'est formée dans la violence, la guerre. Et en 62, mon travail qui sortait, mon travail graphique, mon travail de créateur en 62, était très marqué par la violence. Donc, tu vois, assez expressionniste, machin, mais c'est parce que c'était une domination, tu vois, des événements extérieurs. Et bien après, quand les choses ont commencé à se calmer, tu vois, je vais vers des choses beaucoup plus vers moi-même, etc. Et c'est là que, tu vois, commence à aller vers ce qu'on appelle les traces, la mémoire, machin. Aller vers plus de réflexion j'aime pas le mot tranquille, non, mais disons que...
plus sereine.
Plus sereine, mais c'est parce que c'est serein qu'on peut peut-être mieux se voir. Donc, et au moment où j'ai commencé à me retrouver vraiment dans ma sérénité, il y a eu le déclenchement de ce qui s'est passé dans les 90, etc. Le retour de la violence, les massacres, etc. etc. Donc, c'est eu quelque chose de très dur. C'est comme si on me, hop, rebousculé, hein, boum, voilà, la vie, boum. C'est encore le drame, tout ça. C'est donc, tu vois, un bouquet de roses dans un pot. Non.
Bien sûr.
Là, c'est...
Les événements suivent leur cours et un jour vous êtes amené à quitter l'Algérie. C'est en quelle année ?
En fin 93. Bon, mais ça ne s'est pas décidé comme ça parce que figurez-vous que en novembre 93. D'abord, en été 93, je suis venu en France, quand même, parce que chaque été, bon, j'avais l'habitude avec ma femme de venir en France, parce qu'elle, elle est quand même été française. On venait passer les vacances ici, un peu pour voir elle chez sa famille, puis on allait voir des amis par-ci, par-là. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on était en Algérie, on allait souvent à Paris. Bon, et puis d'autres gens dans du côté de l'Ouest, etc. Mais là, donc, on était revenu en novembre rapidement, et après, il s'est passé une chose, c'est que le directeur des Beaux-Arts d'Alger, Ahmed Aslan, qui était directeur à l'époque, avait fait une tournée dans les écoles du sud de la France, Toulon, Montpellier, avec ce Lumini, bien entendu, etc., pour mettre en place un système d'échange avec Alger et peut-être même créer une espèce de déplacement d'enseignants pour faire des espèces de recyclage, etc., etc. Il commençait à mettre en place quelque chose d'intéressant. Il voulait que je vienne à cette époque-là avec lui pour visiter ces écoles-là. Et moi, j'étais à l'époque, bon, mobilisé par d'autres choses. Et c'était quand même des moments terribles parce que, en amont, on est obligé de le dire, ce qu'il y avait comme le début des assassinats d'artistes et intellectuels algériens. Et quand il y a eu après Ben Khanchir, je sais qu'en général, à un moment donné, c'était tous les vendredis qu'il y avait un assassinat. C'était programmé comme ça. On se demandait quel allait être le suivant. Et en général, c'était des gens qui étaient très engagés politiquement contre le pouvoir. Et bien entendu, contre le régime, pas pouvoir dire les idées réactionnaires, donc progressistes, et bien entendu contre les islamistes. Donc, il y a eu à un moment donné l'assassinat du poète, écrivain et journaliste Tahar Jahout, qui dirigeait à l'époque un journal très combatif dont il était le rédacteur en chef, hein, le parcours. Je m'excuse, j'ai un problème de mémoire, j'enlève le titre du journal. Je sais que son éditorial était très, 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 très offensif. Et il ne se mettait pas de gants pour attaquer les décisions du pouvoir, etc., à l'époque. Et donc, voilà. Donc, lui, un jour, il est venu. On l'a assassiné à la sortie de sa maison pour quand elle est au boulot. Il reste dans le coma un certain temps, mais il n'est pas mort tout de suite. Mais Tahar Jahout, c'était un jeune. En tant qu'auteur, écrivain, poète, c'était quelqu'un qui était en train de monter. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui allait aller très loin. Quelqu'un qui était sur une rampe de lancement pas possible. Et qui est venu à l'expression du journalisme par hasard, mais après qu'il a trouvé une voie d'expression terrible. Et que vraiment, c'était une ouverture et une plume terrible. Il est assez offensive. Clairvoyant. Très clairvoyant. Et son assassinat a choqué beaucoup de gens. Quand, à sa mort, nous avons créé, enfin même un peu avant sa mort, je ne sais pas, ma mémoire comment elle est, parce qu'il était dans le commun, nous avons créé une association, enfin nous avons fait un groupement de gens, un mouvement qui se posait le problème, la recherche sur la vérité de l'assassinat de Tahar Jahout. Parce qu'on pensait que même si c'était un islamiste qu'il avait assassiné, mais quand même, c'est comme si on les avait téléguidés directement. Parce qu'à l'époque, tous les gens qui s'exprimaient comme Tahar Jahout et autres, le pouvoir les avait désignés comme des gens, on appelait ça le Parti de la France.
Oui.
Mais parce qu'ils donnaient des idées progressistes. Tous les gens qui avaient des idées progressistes, on les appelait le Parti de la France. C'était vachement vicieux. Une façon de dire aux islamistes, c'est cela qu'il faut abattre.
Mais vous étiez une cible privilégiée.
Voilà. Alors, donc, alors que tout ce monde-là n'était pas le Parti de la France. C'était des gens qui étaient pour l'Algérie, progressistes. Mais voilà. Alors, du coup, à tel point que même que dans les médias français, on est tombé dans ce panneau quand on a commencé à les gens, les défenseurs de la culture française, etc. Et c'était encore une meilleure manière de enfoncer les progressistes algériens. C'est-à-dire, en fait, les médias en France, pour définir ceux qui se battaient pour la démocratie, disaient ceux qui étaient pour la culture française, ils donnaient de raisons aux islamistes pour qu'on nous tire dessus.
Tout en réclamant beaucoup plus de démocratie en
voilà.
Algérie, ce qui était paradoxe.
Ouais,
oui.
Voilà. Alors, donc quand on a créé on a fait cette réunion pour la recherche sur la vérité, donc il y a eu un ensemble de gens qui sont réunis, il y avait des cinéastes, des écrivains, des universitaires et autres. Parmi eux, donc, il y avait Jean-Pierre Liédot, cinéaste, qui comme moi, un citoyen algérien comme moi, qui est à Paris, tu vois, d'origine espagnole, pareil. Il y avait Nadjet Khadda, universitaire. Il y avait Boussipsi, le psychiatre. Il y avait des journalistes, d'autres écrivains, tout un monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La liste des gens qui se sont réunis ont été publiées le lendemain dans la presse. Deux jours après, un des membres de cette, des gens qui étaient à la Réunion, Bousepsi, a été assassiné. À ce moment-là, il y a eu, on appelle ça, bombe à trembas. C'est-à-dire, attention, hop, là, les gars, il faut faire gaffe. C'est-à-dire, nos noms ont été publiés, maintenant, c'est foutu. Alors, on a commencé, certains, à consulter, à aller voir la police, etc., pour être protégés. On a répondu, on ne peut pas protéger tous les Algériens. Alors, maintenant, débrouillez-vous. Donc, on a commencé à appliquer ce qu'on appelle la semi-clandestinité. Donc, par exemple, je pars le matin de Blida pour aller au Beaux-Arts à l'Alger, il ne fallait jamais que je prenne les mêmes routes. Il ne fallait jamais que je rentre aux mêmes heures. Il ne fallait pas que je rentre par les mêmes portes, etc., etc. Et c'était pareil pour tout le monde. Et bien faire attention de ne pas trop regarder, de voir où on va, etc. Quand quelqu'un t'appelle et que tu ne vois pas, ne te pas retourner. Ne pas te retourner, par exemple. Oui, apprendre à regarder avec un grand angle, sans bouger les yeux. Tu vois si quelqu'un marche derrière toi, que tu entends un machin qui t'appelle, c'est-à-dire tu t'appelles, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas, etc., etc. Et puis, dès que tu as des moments de libre, tu fous le camp ailleurs. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que presque tous les week-ends, on allait en Kabylie. À l'époque, c'était ce qu'on appelait la Kabylie du territoire libre. C'était comme ça. Donc, à l'école des Beaux-Arts d'Azazga, que Ahmed Asla avait créé, etc., et qu'on allait régulièrement là-bas. Mais on était sous tension, terrible. C'est-à-dire, on était vraiment sous tension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, quand il y a eu les vacances d'hiver, Ahmed Asla m'a dit, écoute, je t'en prie, dégage un mois. Il s'est passé une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait il allait y avoir une espèce de marchandage entre le pouvoir et les mouvements islamistes. Et en général, dans ces périodes-là, c'est là où il y a le plus de tueries, quand il y a les moments de marchandage, c'est-à-dire je tue, tu tues, machin, etc. Hein? Donc, nous étions les premières victimes de ces marchandages-là. Alors Ahmed Asla, il m'a dit, écoute, tu te tires pendant un mois, tu vas voir tes copains en France, hein, tu vas décompresser un peu parce qu'on était sous tension, et après on verra. Je dis, à toi, comment tu vas faire? Il me dit, t'inquiète pas pour moi. Donc on a pris un visa, pris une valise, aller voir des copains à Grenoble. Bon, à Grenoble, j'ai des amis d'origine algérienne, bien algérien, qui sont même de Blida, d'origine, etc., qui m'ont accueilli. Bon, Dominique, on a profité pour voir sa famille à Albertville, etc., etc. Entre-temps, je téléphone à Asla, directeur, vers la fin du séjour. Il me dit, écoute, ne rentre pas, ça ne va pas du tout. Reste là-bas et on verra. Je dis, mais comment? Mais je dis, et alors, du coup, mon visa était périmé. Il me dit, tu te débrouilles, mais tu ne rentres pas. Je dis, mais et toi? Il me dit, moi, je vais continuer à m'arranger. Les vacances passent, l'hiver, janvier, février. Moi, j'étais sans papier.
En France, donc? Ouais.
C'est-à-dire, truc périmé. Hein, après, bon, c'est pas la peine que je parle des relations avec la préfecture de Grenoble, etc. Hein, ils découvraient à peine le problème des exilés. Ils commençaient ça démarrait pas. C'est un truc qui venait de démarquer. Le problème des exilés algériens, hein, c'était un truc tout nouveau en France, qu'ils avaient peur que toute l'Algérie débarque en France avec et pour fuir l'islamisme. Et en mois de mars, il y a eu l'assassinat d'Ahmed Asla, le directeur, dans l'école même, avec son fils. Et c'est là que j'ai compris que si j'y étais resté, je serais passé. Du coup, c'est là que j'ai dit, je ne peux pas rentrer.
Vous décidez de rester en France à ce moment-là?
Ouais. C'est là que j'ai dit, je ne peux pas rentrer. Mais alors donc, il fallait me démerder. Voilà. Et c'est comme ça que le destin m'a amené à Marseille. Et alors Marseille, c'est différent. Parce que moi, quand j'étais à Grenoble, j'étais en France. Une ville française, avec tout la dose de nuages au-dessus, etc. Oui. Et je me rappelle avec ma compagne Dominique, chaque matin, quand on sortait, il faisait froid. On allait sur la place publique, on s'assoyait sur les bancs publics, on disait demain on rentre, demain on rentre. Et le copain qui nous disait non, fais pas le con, etc. Tu restes là, etc., etc. Et parce que tu sais, quand tu es dans une situation merdique, sans papier, et puis en plus l'exil, tu es désœuvré, tu as la haine de tout ce qu'il y a autour de toi. La France, autant elle était bien quand je venais en tant que touriste chaque été. J'avais le plaisir de la voir, de regarder les choses, d'aller voir dans les librairies, de regarder les choses. Tout ce qui était autour de moi, après, tu vois, après tout ce qui s'était passé, ce qui se passait en Algérie, on était bloqués avec France Info, tu sais. Non-stop. On avait ça allumé non-stop. Hein? Et c'est tout ce qu'on avait comme truc. Les dernières informations, d'ailleurs, assassinat à l'époque, c'est ça. J'avais un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes étudiants que j'avais abandonnés. J'avais quand même une promotion que je devais faire. Et c'était arrivé plein de choses comme ça. Des gens qui étaient sur le terrain. Et nous, on était là, dans une situation merdique. Mais en même temps, on était loin du danger. Tu vois? Mais en même temps, on avait la trouille. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'on allait peut-être nous poursuivre ici en France aussi, pareil. Parce que les réseaux islamistes, c'était partout. Et tu sais que même en France, on appliquait la méthode « ne te retourne pas quand on t'appelle par derrière ». Tu vois, c'était pareil. Alors, il fallait chercher du boulot. Et c'est comme ça que l'essai m'a amené à Aix-en-Provence, où c'est grâce à Ahmed Atla.
Eh oui.
Et des gens ont été courageux de m'embaucher, alors que je n'avais pas de papier. Et c'est parce qu'ils m'ont embauché que j'ai pu avoir des papiers.
Retourner en Algérie, on va parler de ce petit projet sur Blida pour terminer sur une note un peu plus optimiste.
Ouais.
Vous retournez en Algérie en 2000, je crois.
Bon, il y a le retour rapide en 96 quand même, hein, parce qu'il fallait que j'y règle certains problèmes, hein, vis-à-vis de la famille, que je revois, que je reconnaisse.
Toujours en Algérie.
Oui, ma mère, qu'il fallait que je vois le lieu. Il y a un atelier qui est resté comme ça figé. Il est toujours là, hein, comme ça figé. Si un jour tu viens, ou si vous venez, tu verras ces œuvres qui sont là, inachevées, sur le mur de mon atelier. Tac, c'est l'époque, elles n'ont pas bougé. Et elles sont là. Je ne les ai pas encore sorties, elles sont clouées encore contre le mur, là. Et donc tout ça, ça a été préservé. Et donc, il fallait que j'aille. C'est quand je suis retourné, d'abord quand je suis descendu de l'avion, je n'en revenais pas. Et quand je suis sorti de l'aéroport... Bien entendu que c'était différent que les années 93, c'est-à-dire qu'il fallait tout, il y avait tout un système sécuritaire qu'il fallait traverser pour sortir de l'aéroport. Les gens n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur, etc., pour nous accueillir. Et quand tu vois, arrive, qu'il y avait la famille qui m'attendait, ma sœur, etc., à l'époque, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est de m'agenouiller et embrasser le sol. C'est très impressionnant l'effet terrible de dire, c'est pas vrai, j'y croyais pas. Que j'allais pouvoir remettre les pieds là. Et puis après, bon, traverser la nuit de l'aéroport jusqu'à Blida, à regarder sur les côtés comme ça, et puis raconte, il y a ça, il y a eu ça à tel endroit, il y a eu ça à tel endroit, il y a eu ça à tel endroit. Et la nuit, arriver là, monter l'escalier la nuit. Et quand j'ai ouvert la porte, parce qu'on arrive plutôt au premier étage, quand j'ai ouvert la porte, on a ouvert la porte de la maison, je suis rentré doucement. Je suis pas rentré comme ça, non. J'ai ouvert la porte. On est rentré avec Dominique, ma compagne, rentré dans le couloir, regarder à droite, à gauche, en haut, tous les trucs, reconnaissant les lieux, l'odeur, le sol, le carrelage, et après on rentre dans la pièce centrale, pareil, tu vois. C'est pas vrai. Ça paraît, c'est presque, tu sais, c'était... virtuel, tu vois, un truc comme ça, rentrer dans un truc comme ça, là. Pas possible, tu vois.
Après, laissez-nous seuls, laissez-nous seuls. On est resté toute une nuit à regarder chose par après chose, chose après chose. Toucher tous les trucs, ça, c'est... Toute une nuit comme ça. Pour pouvoir se réimprimer, tu vois, c'est pas vrai. Et puis voilà.
Vous menez, Denis Martinez, ce projet sur Blida avec cette fameuse imprimerie.
Oui, alors je m'excuse, parce que non, c'est grand qu'après il y a eu mars 2000, bien entendu, hein, parce que mars 2000, j'ai fait une performance aux abords d'Alger. Et quand l'histoire de Blida est née de moment en 2003, après, bien entendu, à partir de 2000, j'ai commencé à pouvoir retourner, mais ça, c'est sous les conseils d'amis, parce que les copains, les camarades, ils m'ont dit, maintenant, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a des endroits, des territoires où on pouvait circuler. Hein, et c'est plus les assassinats d'intellectuels, machin, etc. Bon, ok, d'accord. Alors, donc, en 2003, pendant que je montais mon projet ici pour la friche, Jonction, donc j'ai eu à retourner plusieurs fois chez moi, parce que j'allais ramener des choses. Je ne parle pas à moi, mais de chez moi, par exemple. Retrouver la place de Blida, trouver certains musiciens que j'avais envie de faire venir ici, etc., etc. Bon. Et à ce moment-là, j'apprends qu'il existe... l'imprimerie, le Mauguin de Blida existait déjà, tout le temps, il n'a jamais toujours existé, mais on m'a parlé d'un personnage, Chantal Lefebvre, qui était venu prendre la relève d'un de ses cousins pour diriger cette imprimerie. C'était une imprimerie qui a été créée parmi les premières imprimeries du temps de la colonisation sur le territoire algérien, par ce fameux monsieur Mauguin, ouvrier imprimeur de certaines imprimeries de Babelouette d'abord, qui a ouvert cette imprimerie à Blida dans les 1860, je ne sais plus quoi. Et bon, c'est quelqu'un... à l'indépendance de l'Algérie, c'est un de ses descendants qui a gardé la relève.
Qui est resté donc.
Qui a gardé la relève, oui. Et comme il n'a jamais eu de fils, il n'a eu que des filles. C'est M. Mauguin, donc ce qui fait qu'on ne trouve pas le mot Mauguin parmi ses descendants.
Non. D'accord, oui.
Chantal Lefebvre, c'était descendant de Mauguin par les filles de Mauguin.
Bien sûr.
Hein? Et son cousin, il s'appelait Béringer. Donc, tu vois, ça c'est. Alors, Béringer dirigeait l'imprimerie Mauguin, l'imprimerie Mauguin, papeterie Mauguin, etc. Bon. Mais c'était du temps de Béringer, il y avait l'imprimerie qui existait, mais la papeterie était très vivotée à peine, poussiéreuse. Mais bon, on parlait de l'imprimerie Mauguin parce qu'il travaillait surtout pour le secteur administratif. Tout ce qui était registre, fiches de paye, machin, etc. Pour toute la région de Blida, et même plus loin encore jusqu'à La Gouate et autres, etc. Et... Donc, on me parle de cette Chantal dans les années 2003, là, on me parle de cette Chantal Lefebvre, qui, en fait, était venue en 1993 à Blida, c'est-à-dire l'année même où je suis parti.
Oui, voilà.
Elle rentre en Algérie, c'est-à-dire qu'elle, elle, qui est née en Algérie, elle retourne en Algérie pour l'arrivée d'Espagne. Ses parents sont dans la région de Toulon, par là, les pieds noirs dans le Toulon. Elle revient pour prendre la relève de M. Béringer qui venait de mourir. Hein? Et alors imagine dans une période où tous les risques qu'il pouvait y avoir, en même temps pour une femme qui avait une roumia, machin, etc., elle débarque. Elle prend la relève. Et... Ce serait après bien de l'entendre raconter ces histoires-là. Je sais que, bon, de toute façon, moi, les gens, beaucoup, tout le monde me parlait de Chantal Lefebvre à Blida. Les Blidiens. Hein, c'est...
Et là, vous montez un projet avec des élèves.
Oui, alors, moi, quand en 2003, quand je vais là-bas pour la voir, cette femme, quand tout le monde me parlait de cette femme-là, je vais la voir. Elle me dit, ah, elle me dit, enfin, vous venez. Et je dis, ben oui. Elle me dit, parce que tout le monde me parle de vous. Elle me dit, Blida, Martinez. Il y a Martinez, c'est Sidi Kbir, le fondateur de la ville, et Martinez. Ok, d'accord. Alors, j'y vais. Alors, on fait connaissance, et elle avait redynamisé complètement l'imprimerie, elle avait quand même redynamisé la librairie, Là, on va en faire quelque chose de moderne. Je veux dire, un truc, il avait tout retapé, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme publication dans le pays, en relation avec tous les milieux d'édition en Algérie, etc., etc. Et alors, on est presque tous les week-ends une rencontre avec des écrivains et auteurs présentés par des éditions d'Alger et autres. Et on en parle dans la presse, c'est-à-dire les jeudis de chez Morgan. Alors, c'est formidable, etc. Puis bon, on s'est sympathisé. Et puis, elle me dit, voilà, je voudrais vous parler d'une chose. Là-haut, au premier étage, j'ai tout un patrimoine d'imprimerie. Je voudrais peut-être un jour faire l'offrir ou je ne sais pas quoi pour en faire un musée ou autre comme ça. Donc, elle me fait visiter ça. Avec un de ses responsables de l'équipe d'imprimerie, Zan, qui est un spécialiste en typographie. Et je vois un espace fantastique, des anciennes machines, des premières machines, avec tous les caractères en bois, en plomb, etc., tous ces trucs-là. Je voyais ça, et je voyais avec quelle émotion elle en parlait, et aussi le responsable en typographie, comment qu'il en parlait. Les tables de zinc pour le faire laisser, etc., etc. Je regardais ça. Et moi qui étais à la recherche depuis longtemps à trouver comment créer un atelier où vous pourrez se rencontrer l'école d'Alger et l'école d'Aix, parce qu'on n'arrivait pas à mettre en place un réel problème d'échange entre les deux écoles, c'était très difficile. Et je dis, tiens, ça serait pas mal. J'étais en train de penser, pourquoi pas un atelier hors les murs, c'est-à-dire qui ne serait ni dans l'école d'Aix ni l'école d'Alger, mais peut-être dans cet espace-là. Et je lui pose la question à Chantal. Je dis, écoute, ça peut remettre en marche tous ces trucs-là? Elle me dit, ça dépend. Je dis, si j'en fais un projet entre l'école d'Aix et d'Alger pour faire un truc, elle me dit, il n'y a pas de problème.
Et le projet s'est monté comme ça?
Comme ça.
Donc des élèves alors, d'Aix sont venus?
Dans la semaine même, je vois le directeur des Beaux-Arts d'Alger à l'époque, qui était quelqu'un d'intéressant. Hein. Je lui en parle. Il me dit, c'est OK. Je vois... En même temps, le directeur du CCF, c'était Aldo Erlo, qui était un gars super.
Ah oui,
que je connaissais un peu, l'avoir vu parce qu'il était impliqué dans le projet tu vois, de l'année de l'Algérie. C'est pas du tout un administratif. Et donc, j'étais très enchanté, tout ça, tac. L'année suivante, enfin, en 2004, je crois que c'est en 2004, oui. On fait le premier projet. Je rentre, je parle tout de suite de ça à l'école d'Aix, ça intéresse les collègues, etc., etc., de créer un livre avec les étudiants d'Aix et d'Alger, monter un atelier pour les deux écoles dans cette histoire-là.
Projet qui s'est réalisé. Ouais. Et là, vous allez repartir sur Blida.
Oui.
Puisque nous allons avoir le plaisir de nous rencontrer à Blida, probablement.
J'espère.
J'espère aussi. Denis Martinez, je vous remercie.
Merci. Également.
La traversée. La traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilles Barassina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Prochaine émission le dimanche 6 mai à 20h sur les 3-8 de la Grenouille. Bonsoir.